C'est merveilleux de vous voir tous ce matin. J'espère que vous avez tous passé un merveilleux moment hier soir, comme nous l'avons certainement fait chez nous. Nous sommes toujours très doués pour la convivialité et la nourriture. Je suis sûr que nous sommes tous rassasiés et prêts pour le premier jour de pain sans levain aujourd'hui. Eh bien, la nuit dernière était une nuit à observer et à se remémorer. Nous avons parlé, eu des conversations, pensé à quitter l'Égypte spirituelle. Nous avons parlé, pensé à ce que cela signifiait pour Israël de quitter l'Égypte. Et c'était dans nos esprits. La nuit précédant la Pâque, nous avons pris les symboles, nous avons célébré la Pâque, nous nous sommes engagés dans notre vocation, et nous avons regardé vers notre cheminement et notre vocation et pourquoi nous sommes ici, pourquoi nous sommes dans cette voie. Si vous pouvez imaginer, si vous pouvez vous mettre à la place d'Israël, ce matin, ils ont célébré la Pâque, la nuit dernière nous avons célébré la nuit pour être, et ils commençaient un très, très long voyage. Ils commençaient un long voyage. Ils commençaient leur marche. Nous avons tous eu un jour dans notre vie où nous avons commencé notre marche le jour de notre baptême, notre marche dans le mode de vie de Dieu. Israël ce matin a commencé à sortir d'Égypte. Et vous savez peut-être un peu qui je suis, ou vous pouvez me trouver un dimanche matin. Je suis généralement entouré par la création de Dieu ou par les bois, quelque part dans un parc ou un parc national à proximité, et je me promène, je profite de la création de Dieu et je mets un pied devant l'autre. La plus longue marche que j'ai jamais faite, et cela nous ramène à Israël dans un instant, est de 29 km pour ceux qui ne sont pas aux États-Unis, soit 18 miles. C'est la plus longue marche que j'ai jamais faite. C'était long. Heureusement, j'avais un partenaire avec moi, mon jeune fils. Il avait un peu plus d'énergie. Ses articulations étaient un peu plus, je suppose, lubrifiées. Il pouvait faire quelques pas de plus que moi, il pouvait y aller un peu plus doucement, mais c'était une longue marche. Je suis sûr que vous vous demandez tous, 18 miles, c'est loin? 29 kilomètres. Comment peut-on faire cela? Comment peut-on faire cela? Eh bien, en fait, ce n'est pas si loin. Parlons un instant d'Israël. Lorsque nous avons rédigé le message, c'était comme ce qu'Israël avait devant lui, et je vais utiliser quelques notes ici. Quelques estimations qui ont été faites et que j'ai tirées d'Internet, et une partie peut-être un peu de spéculation, mais la plupart parlons de la distance qu'ils ont dû parcourir et commençons juste une partie de l'Exode, une partie de leur voyage vers la terre promise. Ils ont quitté l'Égypte et leur premier arrêt ou le premier arrêt important a été le mont Sinaï. Si nous prenons l'emplacement du mont Sinaï en Arabie Saoudite, comme M. Pack l'a mentionné récemment, leur périple aurait été de plus de 700 km, 435 miles. Pouvez-vous imaginer marcher aussi loin? Pouvez-vous imaginer avec vos enfants, votre femme, peut-être votre mère, vos grands-parents, tous âges confondus, marcher 700 km, plus de 435 miles? Comment cela se serait-il passé? Maintenant, j'ai mentionné qu'ils se dirigeaient vers le mont Sinaï et nous savons tous qu'ils sont arrivés au mont Sinaï avant la Pentecôte. Donc, ils ont mis plus de 50 jours. Eh bien, s'ils ont mis 47 jours pour y arriver, ce site web estimant le temps total qu'il leur a fallu pour atteindre le mont Sinaï, la moyenne aurait été de 15 km, 9,3 miles par jour. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mon 18. Je l'ai fait un dimanche matin dans la vallée de Cuyahoga. C'est environ la moitié, ce n'est pas mal. Eh bien, si vous examinez le récit tel qu'il est présenté dans l'Ancien Testament, il se peut qu'il n'ait voyagé que pendant 29 jours. Il y avait d'autres jours, bien sûr, il y avait les sabbats, il y avait les jours de fête, le dernier jour des pains sans levain. Il y avait d'autres jours où il ne voyageait pas. Prenons donc ces 700 kilomètres, ces 435 miles, et faisons un petit calcul différent. Donc, s'ils n'ont voyagé que pendant 29 jours, ils auraient marché 24 kilomètres par jour en moyenne. Et je suis sûr qu'il y a eu des jours où ils ont fait mieux et des jours où ils n'ont pas aussi bien marché, ou 15 miles. Cela met un peu en contexte la distance qu'ils ont dû parcourir, la quantité de kilomètres qu'ils ont dû parcourir. Ils devaient faire un pas devant l'autre, et ce, uniquement pour se rendre de là où ils se trouvaient en terre d'Égypte jusqu'au mont Sinaï. Nous savons que leur périple, leur errance a duré 40 ans pour diverses raisons. Nous le mentionnerons peut-être plus tard, mais ce n'était que le début. Ils ont dû continuer à marcher, bien sûr. Mais pouvez-vous imaginer marcher 25 km par jour avec toutes vos affaires et le butin de l'Égypte? J'ai entendu parler d'une petite tradition amusante dans une certaine famille. Je sais que d'autres le font aussi. Les plus jeunes ont reçu un peu du butin de l'Égypte la veille au soir pour le dîner. C'est merveilleux à entendre. Imaginez donc tout ce que vous transportez avec vous. Vous ne marchez pas seul. Ce n'est pas comme quand je marchais, un sac de couchage avec de l'eau et de la nourriture, c'était toutes vos affaires, toute votre vie était là avec vous, marchant avec vous lorsque vous avez quitté l'Égypte. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la marche. Mais, d'abord, entrons et parlons un peu de ceux qui ont marché avant nous. Allons au verset 1 de l'Épître aux Hébreux. Un passage qui parle de ceux qui nous ont précédés, puis nous irons dans l'Ancien Testament pour voir certains de ceux qui ont été nommés spécifiquement. Nous n'allons pas tous les passer en revue, en particulier ceux qui ont été marqués comme marchant avec Dieu. Mettons un peu en place ici pour tous ceux qui nous ont précédés, ceux de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et ceux des dernières années. Hébreux, chapitre 12, verset 1. C'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, ce péché que nous avons chassé de nos vies en nous préparant pour les jours des pains sans levain, et croirons avec persévérance la course qui nous est proposée. Ici, il est question de courir. Pensons à marcher. Marchons dans la course qui nous est proposée. Regardons quelques-uns de ceux qui ont marché avant nous. Allons jusqu'à l'autre bout de la Bible. Allons à la Genèse. Lisez à propos de quelques-uns qui ont marché avant nous. Je crois que c'est la première fois qu'il est mentionné dans la Bible qu'un homme, un serviteur de Dieu, est nommé de cette façon. Nous allons à la Genèse, chapitre 5, verset 24. En parlant des enfants d'hier soir, je me souviens avoir entendu ce plus jeune, et l'imagination que j'avais enfant pensait littéralement, et c'était peut-être le cas à l'époque, nous y reviendrons. Ces hommes marchaient réellement avec Dieu. Dieu était là à leur côté. Physiquement, ils pouvaient le voir. Ils marchaient et parlaient ensemble sur terre. S'ils l'ont fait, nous ne le savons pas. Nous n'étions pas là. Mais lisons ici ce que Dieu en dit. Dans la Genèse, chapitre 5, verset 24, « Et Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus, car Dieu le prit. » Tout simplement, Enoch marchait avec Dieu. C'est peut-être à la page suivante dans votre Bible. C'est dans la mienne. Genèse 6 et verset 9. Ici, nous parlons de Noé. Dans Genèse 6 et verset 9, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Peut-être que vous pouvez jouer avec cela un peu dans votre esprit. Prenez-le littéralement. Noé marchait avec Dieu. Dieu marchait à ses côtés. Dieu lui parlait. Il parlait à Dieu. Il n'avait pas la Bible comme nous l'avons. Il n'avait pas d'écriture vers lesquelles se tourner. Comment cela aurait-il été? Marcher avec Dieu, l'avoir à ses côtés, converser avec lui. Allons au premier livre des Rois, chapitre 3. Voyons un peu David. Le roi David. Premier livre des Rois, chapitre 3, verset 14. D'autres serviteurs sont mentionnés marchant avec Dieu. Nous n'allons pas tous les citer, mais allons à l'écriture dans 1 Roi 3, verset 14. Mettons-la un peu en contexte ici, mais nous allons juste lire le verset. Et si tu marches dans mes voies pour garder mes statuts et mes commandements comme ton père David a marché. C'est Dieu qui parle à Salomon. Alors j'allongerai tes jours. Mais juste David a marché. Il a marché avec Dieu. Passons à Luc, chapitre 1, verset 6, pour aller au Nouveau Testament. Peut-être que le Nouveau Testament ne mentionne pas directement les saints qui marchent avec Dieu. Mais ici, c'est un passage curieux. Rien que le contexte. Et je vais expliquer dans un instant pourquoi je le qualifie de passage curieux. Mais ici, tout simplement, c'est bien comment c'est présenté et dit. Et nous allons en fait commencer la lecture au verset 5. Il s'agit de Zacharie et d'Élisabeth. Il y avait, du temps d'Hérode, roi de Judée, un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous ses commandements et toutes ses ordonnances. Imaginez ces deux saints, comment ils marchaient avec Dieu, marchaient dans tous ses commandements, toutes ses ordonnances, et étaient irréprochables. La raison pour laquelle je trouve cela curieux, car comme nous le savons dans le monde, peu de temps dans le contexte ici, Christ vient sur terre, Christ est sur terre, et ils disent que Christ a aboli la loi et les commandements et les ordonnances de Dieu. Et ici, au début de l'évangile, Dieu met simplement en évidence deux de ses serviteurs et explique très clairement ce qu'ils ont fait. Bien sûr, nous apprendrons également ce que nous devons faire et ce que nous ferions, mais ils ont marché dans tous ses commandements et toutes ses ordonnances. C'est intéressant de voir comment c'est présenté, mais je veux me concentrer sur le fait qu'ils ont marché dans la voie de Dieu. Dieu veut marcher parmi nous. Dieu veut marcher avec nous. Allons au Lévitique, chapitre 26, verset 12. Il a marché avec ses saints du passé, et il veut marcher parmi nous. Tout d'abord, permettez-moi d'expliquer l'écriture ici. Lévitique 26 et verset 12. Laissez-moi vous rattraper. Mais ici, Dieu dit simplement ce qu'il veut faire, ce qu'il a dans le cœur. 26 et verset 12. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Prenons le verset tel qu'il est. Je marcherai au milieu de vous. Oui, il s'adresse à l'ancien Israël. En fin de compte, il s'adresse à nous tous. C'est dans la parole de Dieu. C'est à nous de la lire. Dieu marchera au milieu de vous. Mettons cela en contexte. Voyons où et comment cela se situe. Allons au début du chapitre, au verset 1. Et ici, nous allons lire un peu de mise en place dans le chapitre. Et en lisant ces choses, pensez à ce qu'a fait Israël, tu ne te feras point d'idole, ni de statue, ni de colonne, et tu ne dresseras point de statue de pierre dans ton pays pour t'incliner devant elle. Car je suis le Seigneur votre Dieu. Je pense que si vous lisez le reste de l'histoire de l'ancien Israël, ils ont oublié de lire ce qui serait les mots négatifs là. Le nom, le ni, Ne vous levez pas, ne vous inclinez pas. Ils ont oublié de ne pas le faire. Nous connaissons leur histoire. Et lisons le verset 2, vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Dieu a donc dit d'observer les sabbats et de révérer le sanctuaire. Qu'a fait Israël? Israël a fait le contraire. Il n'a pas observé ses sabbats, il n'a pas révéré le sanctuaire. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors je le ferai. Et le reste du chapitre continue. Alors, quel est le cœur de Dieu? Si vous sautez jusqu'au verset 12, et si vous regardez le début de tous les versets, et je ferai ceci, et je ferai cela, et je ferai l'autre. Mais tout était basé sur le fait que si vous marchez dans mes statuts et gardez mes commandements. Alors relisons le verset 12. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Lisons le verset 13. Un rappel de notre situation actuelle, à l'époque des pains sans levain. Et je suis le Seigneur votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, afin que vous ne soyez pas leurs esclaves, que vous ne soyez pas esclaves de l'Égypte, que nous ne soyons pas esclaves du péché, et esclaves de ce monde. Et j'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher debout. Dieu veut marcher parmi nous. Mais nous pouvons voir qu'Israël, et nous savons qu'Israël n'a pas tout à fait compris. Ils n'ont pas compris le message. Ils ont fait, pratiquement dès le premier verset, tout ce que Dieu leur avait dit de ne pas faire. Et puis ils ont oublié de faire tout ce que Dieu leur avait dit de faire. Alors Dieu a-t-il vraiment eu la chance de marcher parmi eux? Pas encore. Allons à Ézéchiel 36. Dieu a un plan, Dieu a un but. Et à la fin, nous savons que le plan de Dieu ne sera pas contrarié, ne sera pas arrêté, quoique nous, les humains physiques, fassions. Voyons quels sont les plans de Dieu pour l'avenir, ce qu'il fera. Et nous parlerons de la façon dont cela est également très étroitement lié à vous et moi aujourd'hui. Ézéchiel 36, verset 25. Nous allons lire quelques versets ici. Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. C'est une vision de l'avenir, lorsque Dieu fera cela à tout Israël, et finalement à toute l'humanité. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre. C'était le problème de l'ancien Israël à l'époque de l'Exode. C'était ce cœur de pierre, ce cœur qui ne voulait pas changer, ce cœur qui ne voulait pas voir Dieu, qui ne voulait pas marcher avec Dieu. Et ici, voici ce que Dieu a promis de faire à l'avenir. Et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai marcher selon mes lois. Encore une fois, les mots sur lesquels nous nous concentrons ce matin. Je vous ferai marcher selon mes lois et vous garderez mes jugements et les mettrez en pratique. Dieu fera cela à l'avenir pour tout Israël et pour toute l'humanité afin de remplacer ce cœur de pierre et de mettre un cœur de chair, un cœur malléable. Frères et sœurs, nous savons que par notre appel, par notre baptême, par la repentance, le pardon des péchés et notre conversion, nous avons reçu ce cœur aujourd'hui. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour pouvoir obéir, pour pouvoir changer, pour pouvoir grandir. Contrairement à l'ancien Israël qui avait le cœur de pierre qui n'a pas changé, nos cœurs ont changé pour que Dieu puisse marcher parmi nous. Nous pouvons marcher avec Dieu d'une manière qu'il ne pouvait pas. Ce matin, nous allons voir comment nous pouvons nous assurer que nous marchons avec Dieu. Nous allons passer en revue quelques actions que nous pouvons entreprendre pour nous assurer que nous marchons avec Dieu, pour nous assurer que de la même manière que dans mon imagination d'enfant, Enoch et Noé avaient Dieu à leur côté pour converser. Nous pouvons avoir la même chose aujourd'hui. Nous avons ce cœur charnel. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous pouvons obéir. Nous obéissons, et Dieu peut marcher parmi nous. Mais avant de commencer, ouvrons la Bible à Jérémie, au chapitre 10, verset 23. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle un peu le texte, et je suis sûr que nous l'avons peut-être récemment étudié nous-mêmes. Il est écrit en petits caractères. Comment marchons-nous avec Dieu? Comment pouvons-nous marcher avec Dieu? Avons-nous vraiment besoin de marcher avec Dieu? Avons-nous vraiment besoin de son aide pour marcher, car beaucoup d'entre nous marchons depuis les premières années de notre vie? Nous savons en quelque sorte comment mettre un pied devant l'autre. Lisons ce que dit la parole de Dieu. Oui, physiquement, nous pouvons marcher, bien sûr, mais nous parlons ici de questions spirituelles. Allons à Jérémie 10 et verset 23. Seigneur, je le sais, la voix de l'homme n'est pas en lui-même. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Alors, juste un petit peu de texte avant d'entrer dans le vif du sujet. Nous ne pouvons pas diriger nos pas. Nous avons besoin de Dieu avec nous. Nous avons besoin de Dieu à nos côtés pour nous aider à diriger notre chemin. Nous devons en prendre conscience pour pouvoir marcher avec lui. Pensez à Israël et à son périple à travers le désert vers la terre promise. Ils ne savaient pas comment aller, où aller. Ils avaient besoin de la colonne de nuée pendant la journée, de la colonne de feu la nuit pour diriger leurs pas. Ils devaient suivre Dieu tout au long du chemin. Eh bien, le premier point que je veux aborder est de marcher humblement. Marchez humblement avec votre Dieu ou un peu à ce sujet dans l'opératoire à cette période de l'année où nous sommes. Période de l'année où nous nous sommes préparés pour la Pâque, nous nous sommes préparés pour les jours des pains sans levain. Parfois, lorsque nous avons des points ou une liste de choses à aborder, nous ne commençons pas nécessairement par le plus important, le plus lourd, le plus sérieux, mais nous nous sommes tous préparés pour la Pâque. Nous sommes donc prêts pour le point sérieux, marcher humblement avec notre Dieu. Et la raison pour laquelle nous commençons également par cela, c'est que si nous ne faisons pas cette chose, cela n'a pas vraiment d'importance pour le reste des points que nous aborderons ce matin. C'est le seul, c'est le maillon faible. Imaginez une chaîne, si ce maillon n'est pas là, le reste n'a pas la même importance. Passons à Michée 6. Apprenons comment et ce que Dieu veut et comment nous devrions marcher avec lui. Pour commencer, tournons-nous vers Michée 6. Nous lisons les versets 6 à 8 de Michée 6. Lisez les versets pour préparer le verset 8, en commençant au verset 6. Pourquoi me présenterai-je devant le Seigneur et m'inclinerai-je? Pourquoi? Pardonnez-moi, me présenterai-je devant le Seigneur et m'inclinerai-je devant le Dieu Très-Haut? Comment devrais-je me présenter devant Dieu? C'est une question rhétorique. Comment dois-je m'incliner devant le Dieu Très-Haut? Comment devons-nous le faire? Dois-je venir avec lui avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Verset 7. Le Seigneur sera-t-il satisfait de 1000 béliers? Pouvez-vous imaginer sacrifier 1000 béliers? Combien de temps cela prendrait-il? À quel point cela serait horrible à notre époque? À quel point cela serait difficile? Avec 10 000 fleuves de pétrole? Continuez avec une question rhétorique. Donnerai-je mon premier-né pour ma transgression, et le fruit de mes entrailles pour le péché de mon âme? Quel est le prix que Dieu veut que nous donnions? Lisons le verset 8. C'est vraiment ce que Dieu veut et cela est directement lié à ce point. Verset 8, il t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Dieu nous a montré ce qui est bon. Le Seigneur ne nous demande que de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec notre Dieu. Tout ce qui a été dit là, tous les sacrifices, tout le prix élevé qui pouvait être donné, et qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions à la fin? Il veut que nous marchions humblement avec lui. Comment faire? Nous en reparlerons. Allons au psaume 51, verset 17. Avec tout ce qui peut être donné, quelle est la seule chose que Dieu attend de nous? Allons au psaume 51, verset 17. En y allant, pensez à tous ces béliers, votre premier-né, ce prix. Et puis la conclusion est que Dieu veut que nous soyons humbles. Il préfère que nous soyons humbles plutôt que tout cela. Psaume 51, verset 17. Commençons par le verset 16, car tu ne prends pas plaisir aux sacrifices, sinon je te les offrirai. C'est la prière du roi David. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Pas à ces milliers de béliers. Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé, c'est un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Un cœur humble, un cœur qui est prêt à écouter. Un homme et une femme qui sont prêts à marcher avec Dieu. Allons à la première épître de Pierre, chapitre 5, et lisons les versets 5 et 6. Comment marchons-nous avec Dieu? Si nous devons marcher humblement, que devons-nous faire et que faisons-nous tous en préparation de ces jours, à l'approche de ces jours? À cette période de l'année, nous passerons certainement beaucoup de temps à revoir et à examiner nos vies, à voir où nous sommes gonflés d'orgueil et où nous devons être un peu plus humbles. Commençons par lire la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 5. De même, vous les plus jeunes, soumettez-vous aux anciens, pour avoir une idée du contexte. Soyez tous soumis les uns aux autres. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Nous sommes orgueilleux, Dieu nous résiste. Mais pour les humbles, il nous donne ses grâces. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment opportun. Donc, notre instruction, c'est une instruction pour nous, et c'est une instruction pour nous de faire, de nous humilier, donc, sous la puissante main de Dieu. Je pose une question. Pourquoi Dieu ne nous humilie-t-il pas simplement? Dieu peut-il nous humilier ou est-ce quelque chose que nous et nous seuls pouvons faire? Allons à Jacques 4 et verset 8. Et oui, cela commence par le plus sérieux des points. Nous avons fait cela. C'est dans nos esprits, Jacques 4 et verset 8. Et voici une instruction, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Il se rapprochera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui avez l'esprit partagé. Soyez affligés, et pleurez. Que votre rire se change en deuil, que votre joie en tristesse. Au verset 10, humiliez-vous devant Dieu, devant le Seigneur, et il vous élèvera. Mettons ces versets ensemble. Faisons un petit dessin. C'est une instruction qui nous dit que nous devons nous humilier. Oui, Dieu peut nous abaisser. Dieu peut nous faire passer par des épreuves et des tests. Nous pourrons en parler plus tard, cela nous aide à réfléchir et à voir qui nous sommes et à voir nos corps physiques, mais en fin de compte, c'est une instruction qui nous dit de nous humilier. Alors, regardons ce dessin. Dieu ne peut pas le faire. Nous devons le faire. Donc, si nous marchons et que Dieu marche, souvent, vous savez, dans le monde, il tourne la tête vers le ciel quand il parle de Dieu. Il lève les yeux vers le ciel, « Oh, Dieu est au ciel, ou qui que ce soit qui soit au ciel, peu importe de quoi il parle. » Il regarde le ciel. Représentons-nous la scène. Dieu marche sur terre et, d'une certaine manière, il nous regarde. Nous, sa création, et il dit « Hé, je suis ici. Vous voulez marcher à mes côtés? Vous voulez être un fils de Dieu? Vous voulez être mon enfant? Vous voulez faire partie de ma famille? Descendez un peu. Descendez un peu. Marchez à côté de moi. Je suis ici en bas. Je ne suis pas là-haut. » Et nous le voyons. Dans ce monde, nous le voyons dans l'humanité. L'humanité pense qu'elle a tout compris, et souvent nous pouvons nous surprendre à penser de même. Nous pensons que nous avons tout compris dans nos vies, et c'est notre Dieu créateur. Nous lisons les Écritures. Il nous ordonne de nous humilier. Il nous ordonne de nous abaisser. Donc, la première chose que nous devons faire si nous voulons marcher aux côtés de Dieu, si nous voulons marcher comme Enoch et Noé marcher avec Dieu à leur côté, pour avoir des conversations avec lui, pour qu'il nous conduise, nous guide, nous dirige, la toute première chose que nous devons faire est de nous abaisser, de nous humilier. C'est voir ce que Dieu nous demande de faire pour descendre un peu à son niveau. Venir voir où il est, ensuite nous pouvons commencer à faire un pas devant l'autre avec Dieu juste à côté de nous. Maintenant, pensons à nouveau à Israël. Nous savons par l'histoire qu'ils ont passé 50 ans dans le désert. Ils n'ont pas fait un petit pas en arrière. Ils avaient d'autres plans. Ils avaient d'autres pensées qui n'étaient pas en accord avec Dieu. Lorsque Dieu a envoyé les 12 éclaireurs en terre promise, ils ont pensé que c'était trop. Ils avaient d'autres idées. Ils n'étaient pas prêts à aligner leurs idées sur celles de Dieu, à les ramener à Dieu. Ces géants n'étaient rien. Mais l'ancien Israël, au cœur de pierre, ces géants étaient tout pour eux. Ils ne pouvaient pas voir le plan de Dieu. Ils ne pouvaient pas abaisser leur esprit pour voir ce que Dieu faisait. Passons au point suivant. Nous marchons humblement avec Dieu. Nous nous sommes abaissés pour marcher aux côtés de Dieu. Nous devons marcher dans l'esprit. Allons au verset 16 de Galates 5. C'est vraiment une façon de marcher avec Dieu. Dieu n'est pas physiquement à nos côtés. Nous ne le voyons pas physiquement. Nous devons marcher avec lui dans l'esprit. Nous avons ce cœur charnel. Nous avons l'esprit qui nous a été donné au baptême. Nous devons alors marcher en lui. Lisons quelques versets ici dans Galates. Nous commencerons au verset 16. Nous lirons et apprendrons de ce qui se trouve ici dans ce chapitre. Et je dis ceci, alors, écrit Paul, marchez selon l'esprit. En lisant les Écritures il y a quelques semaines, j'ai été frappé par « marcher selon l'esprit », tout simplement. Comment pouvons-nous? Personnellement, j'adore marcher. Vous avez entendu l'histoire de la marche de trop nombreux kilomètres à travers la vallée, en profitant, mais comment marcher dans l'esprit? Lisons. Et vous ne satisferez pas les désirs de la chair. Ici, Paul met en place certaines choses, mais marchez dans l'esprit et vous ne satisferez pas les désirs de la chair. Donc, si nous écoutons l'esprit, nous marchons en lui. Les bassins de ce monde, les bassins de notre nature physique ne seront pas là. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Les deux en nous se font la guerre. Et cela continue. Au verset 17. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ces choses que vous voudriez. Nous le savons. C'est pourquoi nous célébrons la Pâque. C'est pourquoi nous allons vers Dieu et lui demandons pardon. Il y aura des faux pas. Ici, d'une certaine manière, c'est encourageant. Nous savons que nous trébucherons. Nous savons que nous tomberons. Nous savons que nous ferons des faux pas, mais une fois par an, Dieu efface l'ardoise, efface notre conscience pour que nous puissions continuer à marcher dans l'esprit. Continuez à lire, mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Bien sûr, nous l'avons mentionné plus tôt, en parlant de Zacharie et d'Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Vous devez toujours respecter la loi, mais nous ne sommes pas sous la loi. Nous ne sommes pas sous le coup de la loi. Nous en prenons également conscience à cette période de l'année. Continuons la lecture. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont celles-ci. Elles sont évidentes. Nous les voyons autour de nous dans le monde dans lequel nous vivons, surtout, parfois en nous-mêmes. L'adultère, la fornication, l'impureté, la lascivité, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, la discorde, les émulations, la colère, les querelles, les séditions, les hérésies, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les débauches et autres choses semblables, dont je vous préviens, comme je vous l'ai déjà dit par le passé, que ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas du royaume. Ce qui expose ce qu'est la chair physique, ce que sont les convoitises de la chair. Mais voici la voie dans laquelle nous voulons marcher, dans laquelle nous voulons grandir. Verset 22. Nous avons donc le Saint-Esprit en nous. C'est ce dans quoi nous devons marcher. Ce dont nous devons être remplis. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Il n'y a pas d'interdiction, de contrôle ou de limitation de ces points. En marchant dans l'esprit, nous pouvons marcher de plus en plus dans les fruits de l'esprit. Il n'y a pas de limite. Verset 24. Je vais le lire jusqu'au 25. Et ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec les passions et les désirs. Et ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec les passions de la convoitise. Nous sommes donc en Christ, nous avons pris part à la Pâque, nous avons su ce qu'il a fait pour nous et les péchés sont derrière nous. Verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Nous devons donc marcher de cette manière. Nous devons marcher selon les fruits de l'Esprit. Nous savons, comme mentionné précédemment, qu'ils nous ont été donnés. Allons à Romains 8 verset 1. Et ici, nous parlerons un peu plus de marcher selon l'Esprit. Et si c'était à moi de le dire, étant humble, en m'abaissant, c'est un peu fort. C'est un peu décevant. Eh bien, ici, nous allons lire quelque chose de très encourageant. Très encourageant si nous avons fait la première étape et que nous sommes passés à la deuxième. Ici, marcher selon l'Esprit. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est nous. Nous marchons selon l'Esprit. Passons au verset 4. La justice de la loi pourrait s'accomplir en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Car ceux qui sont selon la chair, ont l'Esprit aux choses de la chair. Donc, ceux qui sont selon le monde physique ont l'Esprit aux choses du monde physique, rassemblent toutes les choses qui se concentrent sur celles-ci, leur donne la priorité. Mais nous, ceux qui sont selon l'Esprit, avons l'Esprit aux choses de l'Esprit. Nous nous occupons de questions plus importantes, en fin de compte des questions les plus importantes. Verset 6. Car la pensée charnelle est la mort, mais la pensée spirituelle est vie et paix. Donc, le bien de cette voie, une partie 2, je parlais de la partie encourageante de ce point, c'est la vie et la paix. Nous marchons dans l'esprit. Nous allons être remplis de vie et de paix. Continuons la lecture. Parce que la pensée charnelle est inimitié contre Dieu. Et ne le savons-nous pas, nos pensées charnelles? Car elle n'est pas soumise à la loi de Dieu, et elle ne le peut même pas. Surtout à cette période de l'année, nous avons fait notre examen de conscience, nous le savons bien. Ainsi donc, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu, mais ceux qui vivent selon l'esprit, mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, afin que l'esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si nous ne marchons pas selon l'esprit, si nous n'avons pas l'esprit, nous ne sommes pas du Christ. Nous ne sommes pas avec Christ. Et le verset 10, lisez encore quelques versets ici, pour avoir le contexte et vraiment terminer sur un point encourageant. Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Plein de vie parce que l'esprit est en nous. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Rappelez-vous comment nous avons commencé à lire ce chapitre, ce dont nous avons commencé à parler, marcher selon l'esprit. L'esprit est en nous. Prenez la promesse de Dieu ici, ce qu'il fera. Verset 12. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Nous ne pouvons plus marcher comme nous le faisions auparavant. Car si nous vivons selon la chair, nous devons mourir. Si nous retournons là-bas, nous mourrons. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Cela s'applique-t-il aujourd'hui à ce que nous avons fait? À ce que nous avons retiré de nos vies? Que voulons-nous faire au cours des 7 prochains jours et du reste du temps qui nous est donné pour continuer à le faire? Maintenant, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, pour beaucoup qui marchent dans l'Esprit de Dieu, ils sont les fils de Dieu. Laissez cela pénétrer. C'est vous et moi. C'est chacun d'entre nous. Nous marchons dans l'esprit. Nous avons fait le premier pas. Et quel ensemble de mots encourageants. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, pour tous ceux qui marchent dans l'Esprit de Dieu, prenez quelques libertés là-bas, ils sont les fils de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu si nous marchons dans l'esprit. C'est énoncé comme ces choses qui seront sont. C'est ainsi que Dieu nous regarde. C'est ainsi que Dieu nous compte aujourd'hui. Et bien que nous le fassions, oui, cela peut être la préparation du pain levé du jour. Nous pouvons être petits. Nous pouvons voir à quel point nous sommes faibles. Mais comme il est encourageant de savoir que pendant que nous marchons dans l'esprit, Dieu nous appelle l'un de ses fils. L'un des membres de sa famille. Celui qui sera comme lui. Comme il est encourageant pour nous tous d'entendre cela. Point suivant, marcher dans la lumière. Allons à Ésaïe 2 et verset 5. Vous avez noté les deux premiers points les plus importants. Le reste s'y ajoutera. Allons à Ésaïe 2, verset 5. Je sais que cela regarde l'avenir. Regardez un temps. Dieu parle de la maison de Jacob et de la maison d'Israël, mais l'importance ici est de comprendre ce que Dieu pense. Ce que Dieu veut que nous fassions ou la maison de Jacob, ou la maison d'Israël. Nous savons que nous sommes l'Israël spirituel. Venez et marchons à la lumière du Seigneur. Dieu nous appelle à marcher dans sa lumière. À marcher dans ses voies. À marcher avec lui. Allons au psaume 119, verset 105. Oui, c'était une prophétie que nous venons de lire, mais elle s'applique aussi à nous. Lisez-le comme si Dieu s'adressait à vous et à moi. Il nous demande de marcher dans sa lumière, de suivre ses voies. Psaume 119, 105. Lisons-le simplement. Comment faire? Comment marcher dans la lumière de Dieu? Comment suivre ses voies? Verset 105 du Psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu. Nous savons que sa parole est la Bible. Sa parole est la vérité. Et ici, la parole de Dieu est une lampe pour mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous utilisons la parole de Dieu. Nous parlons de marcher avec Dieu. Nous avons la parole de Dieu à travers sa Bible. Il peut nous parler pendant que nous marchons dans cette vie, nos vies. C'est une lampe pour nos pieds. Elle guide nos pas. Elle montre notre chemin. Allons au livre des Proverbes, au chapitre 3, versets 5 et 6. Quelques versets similaires. Cela ajoute un peu. Cela dépeint un peu plus la situation. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Elle guide nos pas. Elle éclaire notre chemin. Sans cette lumière, nous savons que nous sommes dans les ténèbres de ce monde. Dieu veut que nous marchions dans la lumière. Alors lisons ici, dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Cela vous dit quelque chose. Essayez de suivre votre propre chemin. Que se passe-t-il? Dieu dit de ne pas le faire. Ne vous appuyez pas sur votre propre sagesse. N'essayez pas de trouver par vous-même comment faire un pas en avant. Reconnaissez Dieu dans toutes vos voies. Reconnaissez-le et il dirigera vos sentiers. Il vous montrera vos chemins. Allons au verset 23 du chapitre 6 des Proverbes, une page ou deux plus haut. Chapitre 6, verset 23. Tout est lié à notre point de départ dans Ésaïe. Dieu veut que nous marchions dans sa lumière pour le commandement. Disons pour le commandement. Pour tous les commandements. Pour toutes les lois de Dieu. Car le commandement est une lampe et la loi une lumière. Il guide nos pas. Dirige nos pas. La parole de Dieu est dans notre esprit. Et nous marchons comme nous l'expliquons ici. Nous pouvons marcher et parler avec Dieu. Il dirigera nos pas. Il nous montrera où aller. Finissons l'écriture. Car le commandement est une lampe et la loi est une lumière et les reproches de l'instruction sont le chemin de la vie. Donc les paroles de Dieu. Oui, il y aura parfois des réprimandes. Il y aura des instructions. Il y aura des corrections, mais cela nous aidera à voir où aller. Cela nous aidera à voir comment marcher. Allons à Éphésiens 5, verset 8. Lisez quelques passages du Nouveau Testament sur le fait de marcher dans la lumière. Éphésiens 5, verset 8. Nous allons lire quelques passages ici. Juste pour voir ce que Dieu pense de marcher dans la lumière. Éphésiens 5 et verset 8. Encore une fois, le contraste entre la convoitise de la chair et l'esprit de Dieu. Et ce monde, la lumière et les ténèbres. Car vous étiez autrefois ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Dieu nous a demandé de marcher dans sa lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Une instruction pour nous. Marchez comme nous le devrions, car nous sommes dans la lumière du Seigneur. Car le fruit de l'Esprit est tout bonté, justice et vérité. D'autres mots à ajouter à la liste que nous avons lue plus tôt, prouvant ce qui est acceptable au Seigneur. Nous marchons vers la lumière, nous marchons selon sa parole. Nous faisons ce qui est acceptable aux yeux du Seigneur. Et n'ayant aucune part aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt les réprouvant. En marchant dans la lumière, Nous ne faisons plus partie des œuvres stériles de ce monde et notre marche dans la lumière les réprouve. Notre lumière brille pour que ceux qui nous entourent nous voient, voient que nous sommes différents, et certains peuvent se demander pourquoi. Parfois, ils se demandent pourquoi nous sommes si heureux à bien des égards. Revenons au dernier point. Nous devons être les fils de Dieu. Nous marchons dans l'esprit. Pour être les fils de Dieu, en quoi cela devrait-il nous aider à les réprouver? Regardez ce qui est devant nous, regardez ce qui sera finalement devant toute l'humanité, mais continuons à lire. Car il est honteux même de parler de ces choses qui se font en secret. Quand ce passage a été écrit, savait-il ce que serait le monde qui nous entoure aujourd'hui? Le mal que l'humanité peut imaginer est infini et sans fin. Et nous ne devons pas toujours en parler, y faire référence, mais imaginez seulement que lorsque cela a été écrit pour la première fois, ce n'était pas le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais toutes les choses qui sont réprouvées sont manifestées par la lumière, car tout ce qu'elle manifeste est lumière. Verset 14, c'est pourquoi il dit, « Réveillez-vous, vous qui dormez, et levez-vous d'entre les morts, et Christ vous éclairera. » C'est un temps, indique un temps dans le futur. Vous pouvez dire que cela nous concerne aussi. Il y a un parallèle. Nous avons été réveillés. Nous avons été appelés. Nos péchés ont été pardonnés. Le Saint-Esprit de Dieu nous a été donné. Nous avons reçu la lumière, l'Esprit de vérité. Donc, verset 15. Marche donc avec circonspection, non comme un insensé, mais comme un homme avisé, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. C'est le monde dans lequel nous devons marcher, mais nous marchons dans la lumière. Nous marchons avec l'Esprit de Dieu avec nous en nous, nous marchons avec Dieu de telle sorte que nous sommes capables de faire. Verset 16, nous sommes capables de racheter le temps qui nous est donné dans le monde dans lequel nous vivons, en marchant dans la lumière. Poursuivons sur ce point. Allons à 1 Jean 1. Nous allons lire un peu de 1 Jean 1. Permettez-moi de commencer au verset 3. Commencez la lecture au verset 3. Nous lirons du verset 3 au verset 7. Nous avons peut-être lu cela récemment. Ceux qui ont vu et entendu et qui vous déclarent que vous aussi vous pouvez avoir communion avec nous, et vraiment notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses, afin que votre joie soit complète. C'est donc un message que nous avons entendu de lui, et nous vous déclarons que Dieu est lumière, qu'il faut marcher dans la lumière, et qu'en lui il n'y a aucune ténèbre. Qui voudrait marcher dans les ténèbres quand on peut marcher dans la lumière avec Dieu? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Nous ne marchons pas dans la vérité si nous le faisons. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Nous sommes donc en communion les uns avec les autres. Si nous marchons dans la lumière, nous faisons ces choses, nous marchons ensemble. Nous sommes en communion les uns avec les autres d'une manière que personne d'autre sur terre ne peut avoir. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tous les péchés. Et juste, encore une fois, la première partie de ce passage, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, comme Christ est dans la lumière aussi, bien sûr, et Dieu est la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Une instruction encourageante. Lorsque nous marchons dans la lumière, et nous marchons dans la lumière ensemble, nous sommes en communion les uns avec les autres, et nous savons ce que Christ a fait pour nous, nous a purifiés du péché, nous donnant la capacité de le faire, la capacité en tant que chrétien de respecter la loi de Dieu, de garder sa parole, de nous efforcer de suivre sa voie, de marcher dans sa voie. Si nous lisons ceci et que nous marchons dans la lumière, nous sommes ceux qui gardent la parole de Dieu. Nous nous efforçons de ne jamais compromettre sa parole. Nous nous efforçons de marcher. C'est tout droit dans l'étroit. Nous nous efforçons de marcher dans cette lumière et de chercher toujours à faire ce qui est juste. Passons au point suivant. Marcher par la foi. Allez au premier épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Nous allons parler de marcher par la foi. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Deuxième épître aux Corinthiens. Et je trouve cela curieux qu'avec un passage de l'Écriture qui contient si peu de mots et qui a tant de sens, pour une raison quelconque, quelqu'un, un des traducteurs, ait décidé de le mettre entre parenthèses. De le mettre entre petits crochets, comme si c'était une réflexion après coup. Comme si ce n'était peut-être pas à sa place. Vraiment. Vraiment. Eh bien, lisons-le. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Comme ces quelques mots sont significatifs. Et comme ils sont difficiles. Lorsque nous sommes des êtres humains physiques, nous pouvons voir ce qui nous entoure. Il est difficile de marcher par la foi, surtout parce que nous voyons, mais nous en avons reçu l'instruction. Je suppose donc que nous pourrions tous, si nous le voulions, nous débarrasser de ces parenthèses. C'est un point important, extrêmement important, car nous marchons par la foi et non par la vue. Allons à Matthieu 14, verset 28, et lisons un peu la situation dans laquelle Pierre s'est retrouvé. Repensez à marcher par la foi et à marcher par la vue. Pensez à Abraham. Dieu lui a dit, « Fais tes bagages et pars. » Il ne lui a pas dit où aller. Il ne lui a pas dit combien de temps cela allait durer. Peut-être que les Israélites avaient une idée de la durée de leur périple. Ils connaissaient leur destination. Ils savaient que Dieu allait les ramener à la terre promise. Pensez à Abraham un instant. Il vivait dans ce qui était probablement une belle ville selon les critères de l'homme et il a dû appliquer cette écriture. Il a dû marcher par la foi. Il était le père des fidèles ou non par la vue. Mais pouvez-vous imaginer vivre dans l'une des plus belles villes du monde à l'époque et se faire dire « Faites vos bagages, faites partir votre famille et partez. » Eh bien, où est-ce que je vais? Fais tes valises. Rassemble ta famille et pars. Il l'a fait. On ne lui a pas dit où il allait, on lui a dit d'aller en Israël, mais il a simplement marché par la foi. Pourrions-nous faire de même? Pourrions-nous le faire? Si Dieu nous disait de faire nos valises et de partir, où irions-nous? L'exemple pour nous, et l'encouragement pour nous, c'est que si Abraham l'a fait, nous le pouvons aussi. Mais lisons un peu ce que Pierre s'est mis à faire ici dans Matthieu 14. Et j'y suis presque. Matthieu 14 et verset 28. Nous y voilà. Au verset 28, nous y voilà, les disciples coupent dans le contexte. Les disciples étaient dans la barque et la tempête s'est élevée, et Christ se met à marcher sur l'eau vers eux. Verset 28, Pierre lui répondit, « Seigneur !» Il voit donc Christ marcher vers lui dans l'eau. Je suppose que nous sautons ici, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi !» Donc Christ, si c'est toi. Il n'était pas sur un instant, m'a envoyé vers toi sur les eaux. Pierre était plein d'une certaine foi, je veux dire qu'il était plein de zèle, et il était prêt à venir marcher là-bas avec Christ dans les eaux orageuses. Comme les vagues étaient là et que le vent soufflait, il allait sortir du bateau en toute sécurité et marcher sur l'eau. Continuons à lire, et Christ dit, « Viens », et quand Pierre sortit du bateau, Il marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Imaginez-vous, pendant une tempête, une terrible tempête, et même la mer de Galilée, une petite mer, une petite étendue d'eau peut avoir des vagues terribles à cause des vents qui peuvent y être. Et ici, Pierre commence à marcher sur l'eau. Au début, il a la foi. Au début, il voit Christ et il marche. Il poursuit, mais quand il vit le vent, comme il était violent, comme il soufflait fort, il eut peur. Il prit peur. Il commença à couler et il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Pourquoi as-tu douté ? Mettons-nous à la place de Pierre, si nous le pouvons. Si nous marchions sur l'eau et que le Fils de Dieu, Christ, Jésus, marchait sur l'eau. Et il disait, « Viens. Viens là-bas, et vous commencez à marcher là-bas. Vous pouvez voir Dieu. Dieu est là. Il vous permet de faire ses premiers pas. » Pierre a vu Christ et il a commencé à douter. Il a commencé à s'inquiéter du vent. Il a commencé à s'inquiéter des problèmes autour de lui. Eh bien, aucun de nous, nous penserions facilement, « Oh, si nous étions dans ce bateau, sans jeu de mots, si nous étions dans l'eau, il n'était pas dans le bateau. Si nous étions dans ce bateau, si nous étions sur cette eau, nous n'aurions pas fait cela. Nous avons vu Christ. Christ est juste là. Pourquoi Pierre a-t-il commencé à douter? Pourquoi Pierre a-t-il soudainement manqué de foi? Christ était juste là. Il pouvait le voir. Comme il est important pour nous de marcher dans la foi, d'avoir l'Esprit de Dieu en nous, de voir que Dieu est avec nous à nos côtés si nous faisons ces choses, tout comme Pierre a vu Christ devant lui, a vu Jésus devant lui. Il a commencé à douter. Bien sûr, nous sommes tous faibles. Et parfois nous le sommes. Nous avons Dieu en nous. Comment nous devrions marcher par la foi dans nos vies? Allons au psaume 23, verset 4. Ce que nous avons autour de nous est comme il est surprenant que Pierre, il pouvait réellement voir de ses yeux et il a commencé à douter. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous marchons dans la lumière et nous nous sommes humiliés. Et nous marchons avec Dieu juste à côté de nous. Et son Saint-Esprit est en nous. Comment pouvons-nous douter? Bien sûr, nous sommes humains. Et ces jours-là arrivent. Mais allons au psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Et lisons le verset 4. Très encourageant, très utile d'entendre et de lire ces mots. Oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. À quoi cela ressemblerait-il? Qu'est-ce que c'est? Je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Simplement, car tu es avec moi. C'est la prière du roi David, son psaume à Dieu. Il traverse la vallée de l'ombre de la mort. Il traverse la pire des pires situations possibles où la vie est en danger, la vie physique, la vie spirituelle est en danger, l'une ou l'autre. Et ce qu'il dit, je ne craindrai aucun mal, parce que Dieu est avec lui. Comment nous, si nous marchons dans la foi, alors que nous marchons dans la foi, nous avons Dieu avec nous. Nous sommes pareils. Alors que nous traversons nos vies, nous traversons certaines périodes de nos vies qui sont des vallées de l'ombre de la mort. Nous ne devons craindre aucun mal. Nous ne devons craindre rien de ce qui peut nous arriver parce que Dieu est avec nous. Passons au point suivant. Marcher dans l'unité. Allons à Amos 3, verset 3. Un passage commun. Un passage que nous avons tous entendu. Mais si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons marcher en union avec Dieu. Nous avons entendu que sa parole est une lampe sur nos pieds. Sa Bible guide nos pas. Et si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons marcher avec eux. Amos, chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus? Bien sûr, c'est une question rhétorique. Pouvons-nous marcher avec Dieu sans être d'accord? Non, nous ne pouvons marcher qu'en pleine unité avec Dieu. Essayons de nous représenter l'unité que Dieu veut que nous ayons. Allons à Jean, chapitre 17, verset 21. Deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus? L'un de nous pourrait-il imaginer? Bien sûr que non. Il est impossible que nous puissions marcher avec Dieu à nos côtés, sans être en plein accord. Nous sommes physiques. Nous trébuchons, nous tombons. Mais quelle est l'unité que Christ a prié pour que nous ayons? Et l'unité qui devrait être entre nous, entre Dieu, Christ et nous. Comment nous devrions marcher? Tous ensemble, vous et moi, et avec Dieu et Christ. Verset 21. Et c'est au milieu de la prière du Christ ici, afin que tous soient un. Maintenant, allons au verset 20. Je ne te prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, ceux qui croiront en Christ par la suite. Afin que tous soient un. Afin que nous soyons tous un dans l'unité comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et le verset 22, et la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Dieu veut que chacun d'entre nous soit un au même niveau que Dieu en Christ est un. Oui, nous n'y arriverons jamais vraiment dans ce monde physique, dans nos vies physiques. Mais c'est notre objectif. C'est ce que nous devons nous efforcer de faire en toutes choses. Et prenez juste un moment. Pensez à Dieu et au Christ qui ne font qu'un. Tout ce à quoi l'un a pensé est en parfait accord avec l'autre à tout moment. Et ils le font depuis des temps immémoriaux, hors du temps, pour toujours. Qui sait depuis combien de temps? Notre esprit ne peut pas comprendre cela. Dieu et Christ ne font qu'un depuis toujours. Il n'y a pas une pensée qui soit contraire à une autre. Comment cela est-il possible et à quel point cela est-il pour nous un objectif à atteindre, un désir à poursuivre, un combat à mener? Et j'ai dit plus tôt, non, nous n'y arriverons pas dans cette vie physique et les contraintes physiques que nous avons. Nous y arriverons dans le futur, mais nous devons nous efforcer de marcher dans l'unité. Comme le dit rhétoriquement Amos, Dieu a demandé, deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus? Bien sûr que non. Mais vous et moi pouvons tous marcher ensemble comme un seul homme et essayer d'être unis comme Dieu et Christ le sont. Cette barre, je disais tout à l'heure que nous devions nous humilier pour nous abaisser afin de marcher avec Dieu, ici dans un sens différent, Dieu place la barre un peu haute. Non pas que nous ne puissions pas l'atteindre sans son aide, bien sûr. Allons à Colossiens 2. Lisez un peu plus sur le fait de marcher ensemble, mais Colossiens 2 et verset 2. Colossiens 2 et verset 2. Juste une description, nous venons de voir comment Dieu et Christ ne font qu'un et que nous devons être un avec eux. Lisons simplement ceci. Verset 2. Afin qu'ils aient le cœur réconforté, étant étroitement unis dans l'amour, pour parvenir à toute la richesse et à toute la plénitude de la certitude sous l'inspiration de la connaissance du mystère de Dieu, du Père et du Christ. Nos cœurs doivent être réconfortés, étroitement unis dans l'amour. Passons au verset 5. Car, si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. Nous voulons examiner ici le verset 6. Comme vous avez donc reçu Jésus-Christ le Seigneur, vous marchez en lui. C'est donc le point suivant. Enraciné et fondé en lui, affermi dans la foi, comme vous avez été enseigné, abondant en actions de grâce. Imaginez comment nous devons être ensemble, assurés de la bonne compréhension que nous avons tous du grand plan de Dieu pour toute l'humanité et de la façon dont nous avons été enseignés. Oui, deux ne peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Nous voyons comment Dieu et Christ veulent que nous soyons unis un avec lui. Le point suivant, marcher comme Christ a marché. Allons au 1 Jean, chapitre 2, verset 6. Ce serait le 1 Jean, chapitre 2, verset 6. Nous étions ici dans le 1 Jean, chapitre 1, plus tôt. Commençons au verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez pas. Je sais à quelle période de l'année nous sommes. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Oui, nous sommes les premiers à partir. Les prémices et, en fin de compte, tout le plan de Dieu, mais Dieu, Christ, est l'expiation de nos péchés. Passons au verset 6. Verset 1. Il est là pour nous défendre. Il sait que nous allons déraper, mais comment marcher comme Christ a marché? Et il a dit, il demeure en lui aussi pour marcher comme il a marché, pour marcher comme Christ a marché, pour faire tout ce que notre frère aîné a fait, pour faire tout ce qu'il a fait. Et passons à 2 Pierre 2, verset 21. Je vais en fait aller directement au verset 22. Deuxième épître de Pierre, verset 22. Et je me suis trompé, premier épître de Pierre, verset 22. Certains d'entre vous savaient peut-être où je voulais en venir. Et je vais lire le verset 21. Juste pour voir ce que Christ a fait et ce que nous devons faire, car là même où vous avez été appelés, c'est à cause de Christ que vous avez été mis à l'épreuve, lui qui a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Voyons ce que Christ a fait. Lui qui n'a pas péché, car nous pouvons contrôler et arrêter le Saint-Esprit. Lui qui n'a pas péché et nous nous efforçons de faire comme Christ, il n'y avait pas de fraude dans sa bouche, lui qui, lorsqu'il était insulté, ne rendait pas l'insulte. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge avec justice. Versets 22 et 23, ce que Christ a fait est l'exemple que nous devons suivre. Pas de péché, pas de ruse, pas de retour d'injure, et il n'a pas menacé quand on l'a menacé. Et toutes les nombreuses autres choses que Christ a faites est l'exemple de Christ pour nous, nous devons marcher comme Christ a marché. Et enfin, allons à Ésaïe 30 et verset 21. Nous avons parcouru le chemin de l'humilité avec Dieu, du chemin de l'esprit, du chemin de la lumière, du chemin de la foi, du chemin de l'unité, du chemin avec Christ. Je choisis également un autre passage qui indique un moment dans le futur, un moment où nous pourrons faire quelque chose, mais avec quelque chose que nous pouvons déjà observer maintenant. Nous avons fait tous ces points, toutes ces étapes pour marcher de cette manière avec Dieu. C'est ainsi que Dieu peut marcher avec nous. Verset 21. Et tes oreilles entendront derrière toi la parole disant, voici le chemin, marche-le, quand tu tourneras à droite et quand tu tourneras à gauche. Pour marcher avec Dieu, si nous sommes proches de Dieu, si nous nous sommes humiliés. Si nous avons fait tout ce dont nous avons parlé ce matin, Dieu sera là à nos côtés, comme nous serons aux côtés des autres dans leur royaume. Et la parole de Dieu sera là pour dire, voici le chemin, suivez-le, que vous tourniez à droite ou que vous tourniez à gauche. Allons au psaume 56, verset 13, pour conclure. Psaume 56, Verset 13. Imaginez ce que ce sera lorsque nous serons en mesure d'aider toute l'humanité à suivre ses chemins. Nous appliquons tout ce que nous avons appris ce matin. Nous pouvons avoir Dieu à nos côtés, dirigeant nos pas, nous montrant où aller, comment marcher. Psaume 56, verset 13. Nous appliquons tout cela. Contrairement à ce qu'Israël a pu faire, c'est ce que nous pourrons faire. C'est là que nous serons. Psaume 56, verset 13. Je veux me concentrer sur la seconde moitié du verset, mais nous allons le lire en entier. Car tu as délivré mon âme de la mort. Et nous pouvons appliquer cela à nous. Dieu a délivré notre âme de la mort. Ne délivreras-tu pas mes pieds de la chute? Nous marchons avec Dieu, il nous soutiendra, il guidera nos pas. Il veillera à ce que nous ne tombions pas à l'eau. Mais où voulons-nous être en fin de compte? Que moi, que vous, que nous marchions devant Dieu dans la lumière des vivants,